Le chapitre 2 des aventures de Tom Sawyer. Le samedi était venu. La nature entière resplendissait de fraîcheur et débordait de vie. Les chœurs étaient en fête et toute la jeunesse avait envie de chanter. Les visages s'épanouissaient. Tout le monde marchait d'un pas léger. Les caroubiers en fleurs embaumaient l'air. La colline de Cardiff verdoyait à l'extrémité du village et semblait inviter les gens à la promenade et à la rêverie. Tom sortit de la maison armé d'un baquet de lait de chaux et d'un long pinceau. Il examina la palissade autour du jardin. Toute joie l'abandonna. Et son âme s'emplit de mélancolie. 30 mètres de planches à badigeonner sur plus d'un mètre et demi de haut. La vie n'était plus qu'un lourd fardeau. Il poussa un soupir, trempa son pinceau dans le baquet, barbouilla la planche la plus élevée, répéta 2 fois la même opération, compara l'insignifiant espace qu'il venait de blanchir à l'immense surface qui lui restait à couvrir. Puis, découragé, il s'assit sur une souche. À ce moment, Jim s'avança en sautillant, un seau vide à la main et chantant à tue-tête les filles de Buffalo. Jusque-là, Tom avait toujours considéré comme une odieuse corvée d'aller chercher de l'eau à la pompe du village. Mais maintenant, il n'était plus de cet avis. Il se rappelait qu'autour de la pompe, on rencontrait beaucoup de monde. En attendant leur tour, les blancs, les mulâtres, les nègres, garçons et filles, flânaient, échangeaient des jouets, se querellaient, se battaient ou se faisaient des niches. Et il se rappelait également que la pompe avait beau n'être qu'à 150 mètres de la maison, Jim mettait au moins 1 heure pour en revenir avec son seau. « Hé, Jim, fit Tom, je vais aller chercher de l'eau pour toi si tu veux donner un coup de pinceau à ma place. » Jim secoua la tête. « Je peux pas, monsieur Tom. Ma maîtresse, elle m'a dit d'y aller et de ne pas m'arrêter en route. Elle m'a dit que monsieur Tom, il me demanderait de repeindre la clôture et qu'il fallait pas que je l'écoute. Elle a dit qu'elle surveillerait elle-même le travail. T'occupe donc pas de ce qu'elle dit, Jim. Tu sais bien qu'elle parle toujours comme ça. Passe-moi le seau. J'en ai pour 1 minute. Elle ne saura même pas que je suis sorti. Oh non, monsieur Tom, je peux pas. Ma maîtresse, elle m'arracherait la tête, c'est sûr et certain. Elle ne donne jamais de correction à personne, à part un bon coup de dé à coudre sur la tête. Ce n'est pas bien méchant, non? Elle dit des choses terribles, mais les paroles, ça ne fait pas de mal, sauf si elle crie un peu trop fort. Je vais te faire un cadeau magnifique. Je vais te donner une bille toute blanche. Jim commençait à se laisser fléchir. Oui, Jim, une bille toute blanche. Ça, monsieur Tom, c'est un beau cadeau, mais j'ai peur de ma maîtresse. D'ailleurs, si tu me passes ton seau, je te montrerai la blessure que j'ai au pied. Après tout, Jim n'était qu'une créature humaine. La tentation était trop forte. Il posa son seau à terre et prit la bille. L'instant d'après, Jim déguerpissait à toute allure, le seau à la main et le derrière en feu. Tom badigeonnait la palissade avec ardeur. Tante Polly regagnait la maison, la pantoufle sous le bras et la mine triomphante. L'énergie de Tom fut de courte durée. Il commença à songer aux distractions qu'il avait projetées pour ce jour-là, et sa mauvaise humeur augmenta. Ses camarades n'allaient pas tarder à partir en expédition, et ils se moqueraient bien de lui en apprenant qu'il était obligé de travailler un samedi. Cette pensée le mettait au supplice. Il tira de ses poches tous les biens qu'il possédait en ce bas monde. Des débris de jouets, des billes, toutes sortes d'objets hétéroclites. Il y avait là de quoi se procurer une besogne moins rude en échange de la sienne, mais certes pas une demi-heure de liberté. Il remit en poche ses maigres richesses et renonça à l'idée d'acheter ses camarades. Soudain, au beau milieu de son désespoir, il eut un trait de génie. Il reprit son pinceau et s'attaqua de nouveau à la palissade. Ben Rogers, celui dont il redoutait le plus et les colibés, apparaissait à l'horizon. Il grignotait une pomme et de temps en temps poussait un long ululement mélodieux, suivi d'un son grave destiné à reproduire le bruit d'une cloche, car Ben s'était transformé en bateau à vapeur. Arrivé non loin de Tom, il réduisit la vitesse, changea de cap et décrivit un cercle majestueux comme il convenait à un navire calant 9 pieds. Il était à la fois le grand Missouri, son capitaine, les machines et la cloche, et il s'imaginait debout sur sa propre passerelle, en train de donner des ordres et de les exécuter. Stop, ding, ding. Le navire fila sur son erre et s'avança lentement vers Tom. Marche arrière, ding, ding. Les bras de Ben se raidirent, collés contre ses flancs. Droite la barre, tribord un peu, ding, ding, touf, touf, touf. Sa main droite se mit à décrire des cercles réguliers, car elle représentait l'une des deux roues à aube du bâtiment. En arrière, toujours, la barre à bâbord, ding, ding, touf, touf. La main gauche, cette fois, entra en mouvement. En avant, doucement, ding, ding, laisse courir, touf, touf. En avant, toute. Ding, ding, lance la mare, embarque la bosse, accoste, fini pour la machine. Tom continuait de badigeonner sa palissade sans prêter la moindre attention aux évolutions du navire. Ben le regarda bouche bée. Ah, ah, dit-il enfin. Te voilà coincé, hein? Pas de réponse. Tom examina en artiste l'effet produit par son dernier coup de pinceau. Du coin de l'œil, il guignait la pomme de son camarade. L'eau lui en venait à la bouche, mais il demeurait impassible. « Eh, bonjour mon vieux, » reprit Ben. « Tu es en train de travailler ?» Tom se retourna brusquement et dit « Tiens, c'est toi Ben ?» Hé, je vais me baigner. T'as pas envie de venir? Évidemment, tu aimes mieux travailler. Que veux-tu dire par travailler? Mais je parle de ce que tu fais en ce moment. Oui, fit Tom en se remettant à badigeonner. On peut appeler ça du travail si l'on veut. En tout cas, je sais que ce truc-là me va tout à fait. Allons, allons, ne viens pas me raconter que tu aimes ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi je n'aimerais pas ça. On n'a pas tous les jours l'occasion de passer une palissade au lait de chaud à notre âge. Cette explication présentait la chose sous un jour nouveau. Ben cessa de grignoter sa pomme. Tom, maniant son pinceau avec beaucoup de désinvolture, reculait parfois pour juger de l'effet. Ajouter une touche de blanc par-ci, une autre par-là. Ben, de plus en plus intéressé, suivait tous ses mouvements. « Dis donc, Tom, » fit-il bientôt, « laisse-moi badigeonner un peu. » Tom réfléchit, parut accepter, puis se ravisa. « Non, non, Ben, tu ne ferais pas l'affaire. Tu comprends, Tante Polly tient beaucoup à ce que sa palissade soit blanchie proprement, surtout de ce côté qui donne sur la rue. Si c'était du côté du jardin, ça aurait moins d'importance. Il faut que ce soit fait très soigneusement. Je suis sûr qu'il n'y a pas un type sur 1000, ou même sur 2000, capable de mener à bien ce travail. Vraiment ? Oh, voyons, Tom, laisse-moi essayer un tout petit peu. Si c'était moi qui badigeonnais, je ne te refuserais pas ça. Je ne demanderais pas mieux. Ben, foi d'Indien, mais tante Polly. Jim voulait badigeonner, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas permis à Sid non plus de toucher à sa palissade. Maintenant, tu comprends dans quelle situation je me trouve. Si jamais il arrivait quelque chose... Oh, sois tranquille, je ferai attention. Laisse-moi essayer. Dis, je vais te donner la moitié de ma pomme. Alors, eh bien non, Ben, je ne suis pas tranquille. Je te donnerai toute ma pomme. Tom, la mine contrite, mais le cœur ravi, céda son pinceau à Ben. Et tandis que l'ex-steamer, le grand Missouri, peinait et transpirait en plein soleil, l'ex-artiste, juché à l'ombre sur un tonneau, croquait la pomme à belles dents, balançait les jambes et projetait le massacre de nouveaux innocents. Les victimes ne manquaient point. Les garçons arrivaient les uns après les autres. Venus pour se moquer de Tom, ils restaient pour badigeonner. Avant que Ben s'arrêtât, mort de fatigue, Tom avait déjà réservé son tour à Billy Fisher contre un cerf-volant en excellent état. Lorsque Billy abandonna la partie, John Miller obtint de le remplacer moyennant paiement d'un ramord et d'un bout de ficelle pour le balancer. Il en alla ainsi pendant des heures et des heures. Vers le milieu de l'après-midi, Tom, qui le matin encore était un malheureux garçon sans ressources, roulait littéralement sur l'or. Outre les objets déjà mentionnés, il possédait 12 billes, un fragment de verre bleu, une bobine vide, une clé qui n'ouvrait rien du tout, un morceau de craie, un bouchon de carafe, un soldat de plomb, 2 tétards, 6 pétards, un chaborgne, un bouton de porte en cuivre, un collier de chien, mais pas de chien, un manche de canif, 4 pelures d'orange et un vieux châssis de fenêtre tout démantibulé. Il avait en outre passé un moment des plus agréables à ne rien faire. Une nombreuse société lui avait tenu compagnie et la palissade était enduite d'une triple couche de chaux. Si Tom n'avait pas fini par manquer de lait de chaux, il aurait ruiné tous les garçons du village. Tom se dit qu'après tout, l'existence n'était pas si mauvaise. Il avait découvert à son insu l'une des grandes lois qui font agir les hommes. À savoir qu'il suffit de leur faire croire qu'une chose est difficile à obtenir pour allumer leur convoitise. Si Tom avait été un philosophe aussi grand et aussi profond que l'auteur de ce livre, il aurait compris une fois pour toutes que travailler, c'est faire tout ce qui nous est imposé, et s'amuser exactement l'inverse. Que vous fabriquiez des fleurs artificielles, ou que vous soyez rivé à la chaîne, on dira que vous travaillez. Mais jouer au quai ou escalader le Mont Blanc, on dira que vous vous amusez. Il y a en Angleterre des messieurs fort riches qui conduisent chaque jour des diligences attelées à 4 chevaux, parce que ce privilège leur coûte les yeux de la tête. Mais si jamais on leur offrait de les rétribuer, Ils considéreraient qu'on veut les faire travailler et ils démissionneraient. Tom réfléchit un instant au changement substantiel qui venait de s'opérer dans son existence. Puis il se dirigea vers la maison dans l'intention de rendre compte de son travail à Tante Polly.